Et bonjour à toutes, bonjour à tous, et ravi de vous retrouver pour l'émission Sport 360 pour toute l'actualité de la semaine. Au sommaire de cette émission, actualité sportive de la semaine, débat et chronique sur thématique, focus sur discipline ou portrait sportif d'un athlète, et enfin l'agenda du week-end. Je suis accompagné aujourd'hui de Louis.
Bonjour.
Bonjour. Et de Pascal.
Bonjour Julien, ravi d'être avec toi pour cette première de Sport 360 et que tu vas animer toute cette saison.
Et oui, tout à fait, Pascal. Et d'ailleurs, on va commencer par l'actualité récente sur le foot. Donc, il y a eu la 69e édition du Ballon d'Or remportée par Ousmane Dembélé ce 22 septembre 2025, à tout juste 28 ans. Je ne sais pas si vous avez été au courant de cette information, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous deux?
J'ai suivi un peu. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir un Français, même si c'est pas le premier Français. Là, il joue à Paris, donc c'est vraiment quand même assez
À Paris, c'est
important.
pas en France.
Si, bah si. Mais du coup, ça reste important d'avoir un Français qui joue en France, qui est Ballon d'Or à 28 ans. C'est sa première nomination dans les 30 du Ballon d'Or et directement Ballon d'Or. C'était jamais arrivé, il me semble. Donc. C'est vraiment une belle performance.
Le dernier Français qui a été Ballon d'Or, c'était Kylian Mbappé.
Non, Kylian Mbappé n'a jamais été Ballon d'Or.
Voilà, il me semblait bien.
Le dernier, c'est Karim Benzema, il me semble. Je ne sais plus l'année exacte, mais 2021,
En tout
2022,
cas,
un truc comme
il y a
ça.
déjà quelques années qu'on n'a pas eu de ballon d'or.
Ouais.
Ouais.
Et c'est sûr que du coup, c'est un très gros exploit et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu cette chance. Et donc, on va enchaîner tout de suite avec la 6e journée de la Ligue 1. Donc, ce samedi 27 septembre et dimanche 28 septembre, on a eu Lille qui a perdu 1-0 face à l'Olympique Lyonnais.
Et pourtant, ils
Et
étaient sur une belle série,
oui,
Lille, jusqu'à
tout à fait.
présent. Ouais.
Ils étaient sur une belle série. En plus, ils ont dominé tout le match. Ils prennent un but contre le cours du jeu. Après, Lille a manqué de réalisme. Il y a eu quelques erreurs d'arbitrage qui sont assez légères, mais qui, mis bout à bout, deviennent assez dérangeantes pour les Lillois, en tout cas. On voit sur les réseaux que ça parle énormément. Ouais, les Lillois l'ont un peu en travers la gorge, cette défaite.
C'est sûr que c'est une défaite très amère. Et Lens qui n'a pas eu cette chance et qui a fait 0-0 face à Rennes. Est-ce que tu as regardé le match, Louis, toi?
J'ai regardé un peu le match, j'étais pas à fond dessus, j'ai surtout vu des débriefs. Et Lens, on va dire qu'ils ont eu de la chance, parce que dès la première minute de jeu, ils prennent un carton rouge, donc ils font tout le match en fait à 10 contre 11. Donc à 10 contre 11, déjà obtenir un match nul 0-0, c'est déjà
C'est très
bien.
bien.
Et en plus, même si je suis pas très lensois, etc., faut quand même avouer qu'ils ont proposé du jeu. Souvent, quand on a un carton rouge, surtout très tôt dans le match, on replie, on met le bus devant les cages. Full défense, et bah, eux ils ont proposé du jeu, ils ont continué d'attaquer, essayé d'aller chercher quand même la victoire, et ça c'est tout à leur honneur.
Malgré leurs difficultés, ils ont tenu le coup et c'est très bien pour un club de la région. Et donc ensuite, on va parler du classement des plus gros tournois. Donc là, la Première Ligue, avec en première place Liverpool, en deuxième l'Arsenal et en troisième Crystal Palace. Je ne me souviens pas avoir vu ce club dans le top 3.
Non, les deux premiers sont connus,
Oui,
ils sont stables, on les voit
sont souvent
souvent dans
dans
le
le top
palmarès.
3.
Ouais. Mais Crystal Palace, je sais pas, ça me dit rien.
Liverpool et Arsenal, c'est les premiers et deuxièmes, ils gardent leur position par rapport à l'année passée. Arsenal, ça fait quelques années déjà qu'ils sont deuxièmes, éternel deuxième. Crystal Palace, par contre, ouais, belle surprise, ils font un très bon début de saison en espérant que ça continue, pour eux, en tout cas.
On l'espère, ça c'est sûr. Et enfin, avec la Liga, donc en premier, on a toujours Barcelone suivi du Real de Madrid en deuxième. Et en troisième, Villarreal. Je ne connaissais pas cette équipe. Je ne sais pas si toi, t'en as entendu plus parler que moi, Louis.
Ouais, bah de base, c'est plutôt une équipe qui fait les places aux alentours de la 5e à la 8e, on va dire.
Donc ils sont quand même pas loin du top 3, mais
Ouais,
pas
souvent
souvent
le top
dedans.
3, c'est Atlético de Madrid qui vient titiller un peu Real et Barcelone. Là, cette fois, c'est Villarreal, en tout cas pour le moment. Après, la saison peut être très longue. Mais ils font un très bon début de saison avec du beau jeu. Donc,
On va
ils méritent
espérer que
leur
ça
place. Ouais.
continue pour voir un peu de changement dans le classement parce que c'est vrai que ces dernières années, c'est les mêmes équipes dans le top 1 et top 2. Donc ça apporte de la nouveauté. Et on va suivre ensuite, là, il y a eu la Coupe du Monde des moins de 20 ans en foot. Du coup, lundi soir à 22 h, il y a eu la France contre l'Afrique du Sud. La France qui s'est imposée 2-1 face à l'Afrique du Sud, ça c'est un très gros événement et on n'en a pas beaucoup entendu parler.
Bah, c'est vrai que même moi qui suis un peu le foot, j'ai pas entendu parler de ce match, de cet événement, donc
Ben moi, j'ignorais complètement qu'il y avait une coupe des moins de 20 ans. Donc, voilà. Je connaissais les Bleuets pour l'équipe de France, mais je ne connaissais pas les moins de 20 ans.
bah, je savais que ce genre de compétition existait, ça existe dans tous les sports, mais que ça se déroule maintenant, ça m'étonne un peu, parce
C'est un peu
qu'avec
tôt
la
en saison?
retour des championnats, etc., souvent c'est légèrement avant la Coupe du Monde classique pour les grosses stars, etc. Là, non, c'est après, enfin c'est pendant la saison, c'est étonnant un peu.
Et on a encore moins entendu parler des femmes. Je ne sais pas s'il y a eu un pareil, un championnat du monde des femmes en moins de 20 ans. Mais en tout cas, je l'ai vu passer sur aucun réseau social.
Ouais, c'est vrai que les femmes, c'est pas très mis en avant. Là, j'ai en tête par rapport au basket, mais par rapport au foot, j'ai pas du tout.
Ensuite, on va enchaîner avec le tennis. On a eu sur les féminines de Pékin, sur le WTA 1000, Louise Boisson, qui a gagné son deuxième tour face à la numéro 21 mondiale, qui était 19e tête de série, et qui a malheureusement perdu à son troisième tour. Et du coup, on lui dit au revoir, mais c'est un très gros parcours, sachant qu'elle est 41e mondiale. Elle nous avait déjà très impressionnés à la suite de Roland-Garros.
Je
Et
te sens fan de Louise
ah
Boisson.
oui, j'aime beaucoup son jeu sur terre. Elle est très agressive et elle rentre dedans. Elle avait notamment battu la troisième mondiale et la sixième mondiale.
Mais là, elle est 41e mondiale, mais il n'y a pas si longtemps que ça, elle était beaucoup plus loin, non?
Suite à Roland-Garros, elle était 60e mondiale dans les alentours de 60, et encore avant, elle était dans le top 100. Donc après le top 100, je ne sais pas exactement le chiffre, mais
Donc, dans quelques mois, elle est dans les 10 premières à ce
oh, elle a
rythme-là,
fait
parce
une
que...
montée fulgurante. Ouais. On espère qu'elle
Ouais.
continue parce qu'on n'avait pas eu la chance de l'avoir l'année dernière comme elle était blessée, et ça fait plaisir de la voir revenir, donc la première française, et de voir un tel jeu. Ça fait longtemps qu'en France, on n'a pas eu de gros joueurs qui peuvent s'imposer. Dans les grands chelems ou autres compétitions de tennis. Donc, ça fait très plaisir. Ensuite, pareil, toujours à Pékin, chez les masculins, on a eu les six Français qui ont malheureusement perdu à leur deuxième tour. Et à Tokyo, le seul Français présent, Hugo Humbert, qui est deuxième Français et numéro 24 mondial, il a malheureusement perdu son premier tour face à Jenson Brouski, numéro 86 mondial. Donc, c'est un malheureux événement pour nos Français. C'est sûr que chez les hommes, on n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup de Français qui se sont imposés, notamment dans le top 20. Donc ça fait plaisir d'en avoir deux. On a du coup Hugo Humbert qui est numéro 24 mondial et Arthur Fils qui est numéro 23 mondial. Mais ce n'est pas encore un niveau assez important pour s'imposer en Grand Chelem, mais c'est malheureux.
Alors, ça fait quand même des années et des années, je dirais presque des dizaines d'années, qu'on n'arrive pas à avoir des niveaux presque au niveau des meilleurs en tennis côté homme.
Ah oui, c'est
Et
très
tu expliques
difficile.
ça comment
Bah, là, moi, la remarque que je me faisais, c'est sur les réseaux sociaux, c'est presque moqué. Les Français ne passent pas certains tours à Roland-Garros, etc. C'était presque un running gag, en fait, dans le tennis. Donc, enfin, moi, vu de l'extérieur, qui connaît pas trop le tennis, en tout cas, j'avais l'impression que c'était un peu un pays de la honte
Ouais,
tennis.
surtout que c'est Roland-Garros, c'est quand même chez nous,
Ouais,
et
c'est
c'est vrai
ça.
que ça a été très moqué par les gens, comme quoi on n'arrivait même pas nous-mêmes à s'imposer dans nos propres tournois. Donc c'est sûr que dernièrement, les Français
Mais c'est
masculins
quoi? C'est le
surtout.
niveau des entraîneurs? C'est le niveau des joueurs? C'est l'organisation des
Oui, tout ça,
formations?
la mentalité, le taux d'entraînement, la perfection, l'âge à laquelle ils ont commencé aussi. Puis après, il y a les blessures aussi. Les plus grands joueurs, ils se sont très très peu blessés. Malheureusement, ils ont fini leur carrière très tôt. L'exemple de Rafael Nadal, qui est ma plus grande référence. Il a eu un jeu très très agressif, très imposant, mais il a été couvert de nombreuses blessures ces dernières années. Il a dû arrêter. Nos Français, ils ont déjà, pour certains, eu quelques blessures. Il les a peut-être empêchés de grimper au classement. Et après, la présence de Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, ça empêche énormément de monde de monter. Dans le classement et de gagner des grands chelems parce qu'ils sont présents sur tous les gros tournois imposants.
Oui, enfin, ceci dit, il truste les deux premières places,
Oh oui,
mais
oui,
il en
oui.
reste encore dans le top 10, hein. Mais les Français sont pas présents.
Et non, malheureusement, ils sont pas présents. Par contre, on a eu une belle surprise là au rugby, au top 14. Toulouse, qui était cinquième, il a gagné ce week-end une magnifique victoire 59-12 sur Castres. Et du coup, il est remonté premier au classement. suivi de Pau et de Lyon.
Bah après, c'est le début de saison. Toulouse, à mon avis, ils vont finir quand même dans les premières places. Mais ouais, sur le début de saison, ils ont mal commencé pour arriver.
C'est rare de les voir aussi bas dans le classement au début.
Ouais, c'est ça. Et là, bah, ils ont, on va dire qu'ils ont lancé leur saison et qui la machine est en marche. Et
c'est ça.
Il faut voir qui pourra les arrêter.
On espère voir nos favoris en finale comme l'année dernière. Et on a eu la Coupe du Monde féminine. Malheureusement, les femmes ont perdu en demi-finale face à l'Angleterre. Donc, c'est une malheureuse défaite, mais c'est déjà un très beau parcours, la demi-finale. Je n'avais pas eu vent de cette information.
Et là aussi, elle est tôt en saison, cette Coupe du Monde féminine.
Bah, elle a commencé quand même il y a assez longtemps, on va dire. Donc, c'est pas trop choquant. Ça finit un peu tard, oui, mais... En vrai, ça va. C'est surtout que les matchs de rugby, du coup, ils sont pas mal espacés. Donc forcément, ça prend beaucoup de temps d'organiser une Coupe du Monde, etc. Là, l'équipe de France a fait un beau parcours. Bon, défaite. Le score n'est pas très représentatif, en vrai.
C'est assez serré, ça. Ça change très vite au rugby, le score.
Ouais, ouais. Là, sur la fin de match, il me semble de mémoire qu'ils prennent... ils encaissent des points parce que justement ils essayent d'aller chercher plus pour revenir au score et essayer d'aller chercher la victoire, et c'est pas, l'écart n'est pas représentatif du match et de la combativité française, mais les Françaises se sont battues jusqu'au bout. Elles ont pas réussi à avoir la troisième place dans la petite finale, je sais plus c'était contre qui, mais
c'était contre la Nouvelle-Zélande il me semble.
Oui,
et elles ont perdu.
C'est possible.
Ouais, elles ont perdu.
Et elles ont perdu également, mais elles se sont battues jusqu'au bout. Elles ont pris un gros run à un moment, mais...
Il y aura quand même un plus gros écart que sur le match, ouais. France-Angleterre.
Bah, il me semble, de mémoire, que contre la Nouvelle-Zélande pour le match de la troisième place, elles louvrent le score, ça fait 0-7 pour la France, et derrière, elles prennent, je crois, un 39-0.
Pour très mal,
ouais.
Ça fait très mal au moral.
Ouais, ça fait très mal au moral. À la fin du match, elles sont quand même à 26, il me semble. Pour perdre 26-41, un truc comme ça.
Il me semble que c'est aux alentours de ça.
Et donc elles sont quand même remontées, elles se sont battues jusqu'au bout. À 39-7, t'as beaucoup qui abandonnent.
Oui, 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 c'est déjà très bien qu'elles aient réussi à remonter, parce que avec un tel écart de score, surtout au rugby, ça démotive les troupes, et tout seul, on peut pas faire grand-chose au rugby. Et on enchaîne avec une belle surprise en Formule 1. Romain Grosjean, j'ai vu cette information passer la semaine dernière, qui a piloté une monoplace pour la première fois depuis 5 ans, suite à son accident à Bahreïn. Donc c'est une très grosse surprise. On espère peut-être le revoir sur les championnats de Formule 1. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne.
Je ne connais pas du tout la Formule 1, je ne suis pas. Mais c'est toujours impressionnant de voir des gens qui ont eu des accidents ou des problèmes, etc., à revenir et revenir le plus fort possible.
Surtout connaissant la charge de puissance de la Formule 1.
Ouais.
Oui, mais en général, les pilotes de Formule 1, ils ont une grande résilience, parce que quand ils ont des accidents, quand ils le peuvent, bien sûr, ils remontent assez vite dans le baquet et ils retournent à la compétition. Et je pense que lui, c'est le cas. Il y a une envie. Bon, c'est une passion aussi. Hein, c'est un sport qui demande un engagement aussi bien physique que moral. Alors vous allez me dire, c'est la même chose pour tous les sports de haut niveau, mais je pense que dans la Formule 1, il y a peut-être cette notion en plus de performance homme-machine, en quelque sorte.
Quand on voit la puissance qu'ils prennent dans chaque virage et dans chaque accélération, c'est énorme pour le corps, c'est très 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 physique comparé aux autres sports, je trouve.
Bah, vu de l'extérieur, souvent on peut se dire ouais, c'est la voiture qui fait tout. C'est sportif d'être dans la voiture aussi. Hein. Tu prends un changement de direction, je ne sais pas combien en termes de vitesse. Enfin, faut le tenir. Hein. C'est sportif aussi.
Et on va enchaîner sur le cyclisme maintenant. Et je vais laisser Pascal parler du cyclisme.
Eh ben moi, je vais vous parler du championnat du monde à Kigali, au Rwanda. On a vu des déclarations dans la presse de Tadej Pogacar, qui avait dit « Oh, je suis sorti du Tour de France fatigué, je ne sais pas d'ailleurs si j'y participerai ». Enfin voilà, il avait minoré complètement ses capacités de performance sur cette compétition. Et puis comme d'habitude, il lance une attaque décisive à 104 km de l'arrivée et il se paye 66 km en solitaire et il reste donc champion du monde pour la deuxième année consécutive. Donc un peu comme on parlait au tennis tout à l'heure, eh bien il y a lui et puis tous les autres loin derrière. Et puis je terminerai avec une autre petite anecdote qui nous parle à nous nordistes, puisque l'équipe Cofidis, qui est sujet à relégation puisqu'elle est très très mal classée au classement des équipes, elle est menacée de relégation et elle se sépare, ça a été annoncé ce week-end, elle se sépare de son directeur sportif qui était Cédric Vasseur. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Cédric Vasseur, maillot jaune dans le Tour de France,
oui, quand même,
et originaire de Stanford.
Un gros nom du cyclisme.
Voilà, c'est un petit voisin et qui avait fait son chemin à l'époque et il avait gagné de nombreuses courses et notamment il avait fait quelques jours en jaune sur le Tour de France. Il était devenu ces dernières années, enfin quand je dis ces dernières années, près de 8 ans, directeur sportif de l'équipe Cofidis. L'équipe Cofidis, c'est l'équipe lilloise, hein, c'est l'équipe des Hauts-de-France. Sauf que cette année, l'équipe de Cofidis n'a rien gagné.
C'est bien dommage,
et on ne comprenait pas trop pourquoi. Et comme au foot ou dans d'autres sports, il faut bien que quelqu'un paye pour le manque de performance de l'équipe. Et donc, on vient de débarquer Cédric Vasseur, qui sera remplacé par Raphaël Lejeune, qui est un ancien coureur également, mais au palmarès un petit peu moins médiatique que Cédric Vasseur. Et effectivement, il y avait urgence à prendre des mesures. Donc, changement de directeur sportif dans l'équipe Cofidis. On suivra ça dans les semaines et les mois qui viennent.
Et oui, Pascal, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Et maintenant, on va parler un peu de course à pied. On a Stéphanie Jiquel qui a battu son propre record du monde qu'elle avait effectué en 2023 en réalisant le trail de 100 km de Millau en 8h21. Elle a cette année franchi la ligne d'arrivée en 8h, 2 minutes et 34 secondes.
Impressionnant.
Et ce qui est énorme, je prends l'exemple des hommes, le premier qui est arrivé en 6h et quelques. C'est un temps, sont des temps absolument incroyables. Et on a aussi la chance chez les Français. On a Thibaut Dora qui a 22 ans et qui a confirmé ses espoirs placés en lui en remportant une médaille d'argent sur le 5000 mètres T54, qui est une course para-athlétique qui a eu lieu à New Delhi. C'est énorme d'avoir une seconde place sur un sport para-athlétique, surtout avec une victoire en 10 minutes et 9 secondes. On va parler tout de suite aussi d'athlétisme avec la Coupe du Monde. Elle a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine et demie et on n'en a pas tellement entendu parler que ça. Et j'ai donc décidé d'interviewer un étudiant en STAPS qui a suivi, lui, de près la Coupe du Monde d'athlétisme. Et on va en parler tout de suite après une petite pause musicale.
Was lightning before the thunder. Thunder.
Vous êtes toujours sur Eiffel Radio et maintenant on va donc parler d'un étudiant en STAPS qui a suivi de près lui les championnats du monde d'athlétisme du nom de Hugo Repère que j'ai eu la chance de rencontrer la semaine dernière et que j'ai interviewé.
Hugo Repère qui est avec nous pour parler de son sport de cœur, l'athlétisme. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Dis-moi, on sort tout juste des championnats du monde d'athlétisme et on a eu un peu l'impression que l'événement est passé inaperçu. Qu'est-ce que t'en penses toi qui as vécu ça de près?
Bah moi, je suis étudiant en STAPS, en L1, et c'est vrai que faisant partie de la spécialité athlétisme, on en a beaucoup parlé avec mes amis et aussi mes coachs, mais c'est vrai que niveau médias et tout, on n'en a pas forcément parlé plus que ça, alors qu'il y a quand même des bonnes perfs pendant les championnats du monde. Donc c'est vrai que ça a été un peu invisible pendant ces 3-4 semaines.
Pourtant, l'athlétisme, ça reste quand même le sport roi aux Jeux Olympiques. Comment t'expliques que ça marche beaucoup moins le reste de l'année ?
Bah moi je pense que même au JO, c'est une ambiance qui marche énormément. Mais au championnat du monde, vu qu'on n'a pas beaucoup d'athlètes qui ramènent beaucoup de médailles, je pense que c'est un peu à cause de ça que les gens ne regardent pas forcément les championnats du monde d'athlétisme.
Et du coup, toi, t'aimerais voir quoi changer en tant qu'athlète de ce sport ? Qu'est-ce que t'aimerais qu'on amène, soit des nouvelles chaînes, soit plus en parler à la radio, faire des interviews, plus des posts sur les réseaux
Bah ouais, à mort, parce que du coup... On a une petite visibilité, du coup les gens pensent que l'athlétisme c'est juste courir, alors qu'on pourrait tellement mettre les championnats du monde sur France 2 ou des choses comme ça, alors que bah du coup ça se fait pas, et même sur les radios on n'en parle pas assez du coup, même des interviews de joueurs on n'en voit que sur l'équipe, alors qu'on pourrait tellement faire les vainqueurs et tout de français. On a eu quand même Jimmy Gressy et Antoine Ferranti qui ont fait genre des bons scores en athlétisme, et pourtant genre c'est passé un peu inaperçu quoi.
C'est vrai que du coup tu en parles là et t'en as déjà parlé tout à l'heure, mais on a quand même vu quelques belles perfs pour ces championnats du monde. Et qu'est-ce que toi tu retiens de ces championnats ? Parce que je sais que tu as suivi le truc.
Bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de très bonnes perfs et c'était un peu impressionnant. Mais après, ça montre aussi que d'année en année, il y a aussi des évolutions, mais aussi des personnes qui tombent un peu de haut. Parce qu'il y a quand même des athlètes qui ont été champions du monde à certains moments et du coup là, c'était un peu compliqué. Mais aussi... des personnes qui ont eu du mal ces dernières années et que là, ils sont devenus soit vice-champion du monde ou champion du monde. Donc, c'est vrai que ça reste quand même un beau message d'espoir et de persévérance pour les athlètes comme nous.
Ouais, donc si je comprends bien, c'est soit une avancée technologique, soit un meilleur travail au niveau des athlètes. Et du coup, ça change chaque année, en fait.
Bah, c'est ça. Puis surtout, en plus, on arrive à un moment où le sport devient de plus en plus en danger, que ce soit dans les médias, mais aussi à la fac. Et c'est vrai que montrer que le sport est toujours vivant, bah, ça permettrait aux étudiants de déjà s'inscrire à certains sports, mais aussi de montrer que bah, qu'est-ce que l'athlétisme. Du coup, c'est vrai que c'est important de, je pense, montrer dans les médias à quoi ressemble l'athlétisme, mais aussi à en parler autour de nous.
Bah, merci Hugo, merci d'avoir été avec nous.
est toujours sur FL Radio et juste avant cette petite pause musicale, vous avez pu entendre l'interview de Hugo Repère, un étudiant en STAPS à Lille qui a suivi de près les championnats du monde d'athlétisme. J'ai retenu de son interview que le sport est en grand danger et j'aimerais qu'on en parle, mais avant j'aimerais avoir votre définition à vous de qu'est-ce que c'est l'athlétisme, Louis.
Moi, pour moi, l'athlétisme, tel que je le vois, c'est le sport brut tel qu'on l'a à la base. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de, entre guillemets, de complexe à part la performance athlétique pure. C'est-à-dire on fait de la course, c'est que de la course. On fait du saut, c'est du saut. C'est vraiment le truc pur. C'est pas on mélange de la course avec du saut, avec autre chose. C'est on prend une discipline et on la pousse au max. Pour moi, c'est ça.
C'est pas un sport modifié, c'est que des bases comme courir, sauter, lancer.
Si je maîtrise, par exemple, mon domaine, c'est la course, je maîtrise la course à la perfection, pas forcément les autres domaines, mais la course, par contre, je sais faire ça, mais mieux que tout le monde.
J'aimerais avoir, toi, ta vision des choses,
Pascal. Alors moi, l'athlétisme, ça me renvoie à l'histoire du sport, quelque part, parce que c'est les sports qu'on pratique dans un stade, ça me fait penser à la Grèce, à Rome, les jeux du stade, et en fait... Ça nous renvoie, comme tu le disais à l'instant, ça nous renvoie à la performance pure du corps, quoi. On a de la force, on fait du javelot, on fait de l'haltérophilie, on court vite, on fait du 100 mètres. Enfin, la discipline maître, c'est par exemple le 100 mètres. Donc pour moi, c'est l'essence du sport. Et puis, rappelez-vous, quand on commence à faire du sport à l'école, ça commence souvent par de l'athlétisme, hein.
C'est vrai. Et d'ailleurs, les sports de maintenant se sont tous à peu près inspirés des sports de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Et du coup, les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu en 1896 à Athènes, justement, donc dans tout ce qui est arène, comme tu le précisais si bien. Et même ces sports-là, ils se sont inspirés de tout ce qu'il y avait à l'Antiquité, les combats dans les arènes, de gladiateurs, les courses de chars et autres. Et c'est juste une amélioration et... Maintenant, c'est revenu à une simplification, juste courir, sauter,
alors, lancer. Alors, la contradiction, c'est que c'est peut-être pas les sports les plus médiatisés.
C'est vrai.
Alors que c'est à l'origine de beaucoup de sports, et c'est pas forcément le sport les plus médiatisés. Alors, encore que c'est peut-être un tropisme français, parce qu'on va aux États-Unis, la course à pied, notamment le 100 mètres, c'est la discipline reine quand même.
Oui, hein. Et pourtant, c'est quand même le sport phare des Jeux Olympiques, et c'est le moins médiatisé en dehors des Jeux Olympiques, et c'est bien dommage.
Après, souvent, quand on parle d'athlétisme, on pense toujours aux mêmes athlètes, toujours les mêmes disciplines. On ne regarde pas forcément, on sait ce qui se passe. Je pense à la course avec Usain Bolt. Bon, tout le monde connaissait son nom, tout le monde le connaissait. Mais est-ce qu'on connaissait les concurrents ? Est-ce qu'on... En fait, c'est vraiment des athlètes, les meilleurs. Là, je pense au saut à la perche. On a tous Duplantis en tête. Bon, mais qui est concurrent de Duplantis actuellement ? Même si on n'a pas vraiment vu qu'il écrase tout, mais qui finit deuxième, qui finit troisième, on sait pas. Et je pense que ça aide à masquer un peu le sport, parce qu'au final, on n'a plus trop de surprises. On sait un peu. C'est ça. Si je reprends la natation au JO, on a eu. Merde, comment il s'appelle ? Le français
Léon Marchand,
qui a mis de la lumière sur pour les Français. Donc les Français ont regardé parce que Léon Marchand. Est-ce qu'à l'étranger ils sont allés voir pour Léon Marchand? Je sais pas.
Ah oui, tu veux dire que ça dépend aussi de la qualité du sportif dans la discipline.
Ouais, je pense que si ton sportif de ton pays il est pas performant ou qu'il y en a un qui est trop performant et qui veut rafle tout. Ça invisibilise dans les autres pays et dans les...
Mais je reprends l'exemple que tu prenais de Duplantis. Je ne suis pas originaire du même pays que lui. Et pourtant, ça me donne envie de voir quand je vois qu'à chaque fois, il bat son propre record du monde. C'est ouais, quand même un exploit énorme.
Est-ce que tu as envie de voir Duplantis ou est-ce que tu as envie de voir la discipline ? C'est ça que je veux mettre en avant.
C'est vrai. C'est plus lui qu'on va voir que la discipline en elle-même. Mais après, il y a beaucoup de... Je trouve que l'athlétisme, c'est... très 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 varié, rien que je prends la course pure, il y a tellement de bifurcations, de distances, que ce soit le 100 mètres, le 200 mètres, ou plus long, marathon, semi-marathon, c'est quelque chose qui a énormément évolué, et pourtant, on reste à quelque chose qui est quand même très basique.
Ouais, après, ça travaille des choses très différentes. Le 100 mètres, ça sera plus sur l'explosivité, le départ et la réaction. Que au plus tu rajoutes de la distance, au plus le sprint sera important, ou l'endurance, etc.
Oui, mais c'est vrai que quand tu regardes le nombre d'heures de médiatisation d'un sport comme le tennis, on l'évoquait à l'instant, ou le vélo, dont je parlais également, tu as un nombre d'heures, y compris les sports mécaniques. L'athlétisme, Jeux Olympiques, oui, là, il y a une grande présence médiatique. Après, championnat du monde, un petit peu, mais après, c'est l'impasse, quoi.
Mais je prends l'exemple, encore une fois, des courses, parce que c'est un sport qui me plaît énormément aussi, et je me suis mis à ça récemment. C'est souvent, pour la plupart, des courses très rapides qui sont médiatisées, mais sur
un
très court terme. Et donc, ça fait aussi un taux de médiatisation beaucoup plus faible, tandis que les marathons, ils sont beaucoup moins médiatisés parce qu'ils sont beaucoup trop longs, justement.
Si je prends pour la course, à mon avis, c'est un peu comme pour la natation. Je me rappelle les JO. Bon, quand tu voulais voir Léon Marchand, c'était à ce moment-là. Tu arrives avec 2 minutes de retard. Bon, la course, elle est passée.
C'est ça.
Ciao, bye bye. Voilà. Et peut-être que, du coup, les gens, on voit énormément que ça utilise le streaming, etc. pour regarder en différé. Bon, sur ce genre de sport, est-ce que tu as envie de regarder 1 minute de course en différé? Je pense que ça démotive aussi certaines personnes à aller chercher ce contenu-là.
Je trouve que moi aussi, beaucoup de personnes y mettent plus les sports comme ça en arrière-fond, par exemple derrière un repas, que ce soit au JO ou même ailleurs. Et je trouve ça bien dommage parce que ça permet la médiatisation. Et donc, on se dit, ils sont bien vus, tout le monde les regarde. Mais en fait, les gens, ils regardent sans faire forcément attention. Et je trouve ça bien dommage pour les athlètes. Et du coup.
Oui, puis on le disait tout à l'heure, il y a une extrême personnalisation, mais ça c'est dans tous les sports, sur le plus performant du moment, ou la plus performante du moment. Et puis on oublie que derrière, il y a des équipes complètes pour les sports collectifs, où il y a des gens qui sont deuxième, troisième, tu le disais Louis, et en fait tout est focalisé. Je pense encore aux frères Lebrun, je pense effectivement à Léon Marchand, etc. C'est personnalisé sur ou Teddy Riner en judo, c'est personnalisé à l'extrême et en athlétisme aussi également.
Mais le problème du déclin du sport, on va dire, c'est mondial ou c'est genre en France?
Je pense que c'est plus en France, et justement, je reviens sur ça, lors de l'interview, mon interlocuteur, il m'a bien dit que le sport était en danger, donc que ce soit le sport professionnel ou même le sport à...
Alors qu'est-ce qu'il entendait par là, le sport en danger? Parce que c'est un mot fort quand même. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est intérêt? Est-ce que c'est médiatisation? On sait que... On a entendu là récemment avec les difficultés que le foot rencontre pour faire diffuser les matchs et le fait que la Ligue ait créé sa propre télévision en quelque sorte et ça crée un trou financier y compris pour les grands clubs. Alors si c'est vrai pour le foot, est-ce que ça veut dire que c'est tout le sport qui est touché par ces difficultés?
Il y a de nombreux sports qui sont touchés par ces difficultés. Je prends notamment en STAPS, il y a beaucoup de filières qui sont saturées, sous-financées. Et donc les installations, elles sont plus aux normes, elles sont cassées, elles sont usées, elles sont réparées 3-4 ans après, et donc ce qui pose énormément de problèmes. Et même les athlètes à plus petit niveau ou d'autres sports, moins médiatisés que le foot, je prends l'exemple du foot où ils se font des millions par mois ou par an, et au tennis, seuls les plus gros joueurs gagnent un gros gain en remportant des tournois, mais même les plus petits joueurs qui sont dans le top 50 mondial, ce qui est déjà énorme, ils gagnent très très peu leur vie et je trouve ça bien dommage. Et c'est vrai qu'on a, nous, en tant que Stapsiens, remarqué une très très grosse baisse de financement de la part de l'État.
Je ne sais plus c'est quel sportif, mais ça remonte déjà à quelques années, un sportif français qui disait « La France n'est pas un pays de sport parce que, en gros, on n'a pas les infrastructures qui suivent, etc. » On est un pays où on fait des performances sportives, on a des grands sportifs, à l'image de Teddy Riner, Léon Marchand et bien d'autres. Par contre, on n'a pas les infrastructures, etc. On n'est pas un pays de sport dans la formation de sport, en fait. Et c'est vrai qu'au plus on regarde, au plus on se dit, il y a beaucoup de sports et beaucoup de clubs, etc., où les infrastructures ne sont pas aux normes, effectivement, sont en décalage avec ce qui devrait être. Et au final, on n'a pas le matériel pour créer vraiment toute une génération de grands sportifs. On aura un ou deux qui vont sortir du lot, et les autres, c'est un peu la course à celui qui va essayer de sortir son épingle du jeu, quoi.
Et le plus gros problème pour moi, c'est le manque de financement. Je prends
Ouais.
l'exemple du ministère des Sports qui ont vu leur crédit diminuer en passant de 1,8 milliard d'euros en 2024 à 1,5 milliard d'euros en 2025. On a quand même, hors JO, une baisse prévue
Alors,
de 200 millions
moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est
d'euros.
qu'au JO, tout le monde applaudit, tout le monde dit c'est formidable, on a su organiser les JO, c'est un spectacle très très beau, on a un nombre d'athlètes, que ce soit d'ailleurs dans le sport ou le sport paralympique. Et l'année d'après, coup de rabot sur les crédits. Alors, je sais bien, on n'entrera pas ici dans le débat, mais il y a moult problèmes financiers pour un pays comme la France. Mais quand même, c'est surprenant que tout le monde dit bah oui, il faut encourager, il faut surfer sur la vague des JO. Et l'année d'après, on réduit les crédits. Et si en plus, de manière structurelle, telle que tu nous l'expliques, il y a déjà des plateaux techniques un petit peu hors normes, et que, comme tu le disais également, Louis, il n'y a pas la culture du sport comme on peut l'avoir dans les pays du Nord ou en Amérique du Sud, par exemple. Bah, effectivement, mais c'est le mot danger qu'il a employé, Hugo, qui me fait me poser la question, est-ce qu'on pourrait avoir la disparition de certains sports?
Je pense que peut-être pas la disparition, mais la diminution, le manque de nombre d'équipes. Je prends un exemple, même dans le foot, j'ai suivi le club de Toulouse, car je connais des gens qui y travaillent. Ils ont dû vendre toute leur équipe par manque de moyens. Et c'est des choses qui sont vraiment importantes
C'est un peu ce qui s'est fait à Montcouvert, au LOSC
Oui, ça a juste été plus
et
masqué,
à Lens
mais.
également, ça a été plus masqué, mais il y a un peu de ça, hein.
C'est un peu ce qu'on a vu avec Lyon au foot, qui là cet été était quasiment à déposer le bilan et qui ont dû vendre énormément pour essayer de trouver des nouveaux financeurs, parce que sinon ils déposaient le bilan, ils étaient relégués en national, etc. Tu as beaucoup de clubs qui sont en difficulté. Si on prend dans le basket, Lille, le club de Lille, le LMB, il était en Pro B jusqu'à, je crois, il y a encore 2 ans, et il a été relégué administrativement parce que manque de moyens financiers, hop, l'équipe renouvelée parce qu'on ne peut pas payer les contrats, les joueurs libérés, et le club, je crois que là, ils sont en national du coup, ce qui est terrible pour.
C'est une très grosse baisse quand
Ouais,
même.
c'est ça, c'est terrible pour le sport quelque part. Mais il
Et là, on parle du sport professionnel. C'est pire encore pour le sport amateur.
y a. Je prends
Ouais.
l'exemple, nous en STAPS, à Lille, on a eu un très gros manque de moyens, donc que ce soit au niveau des enseignants ou des infrastructures. Et du coup, ça n'a pas suivi la vitesse, l'évolution des choses, parce que on a eu. Parfois, un enseignant pour nombre d'étudiants, plus de 40 étudiants, et on a eu, à cause de Parcoursup, une demande très très élevée en L1 et qui est trop importante par rapport à nos infrastructures. Donc, soit des gens qui se retrouvent en attente ou refusés, ou alors des amphis qui sont pleins à craquer et qu'on n'a pas assez de place pour accueillir tout le monde.
Là, on parle beaucoup d'infrastructures, mais il y a aussi autre chose que je vois, moi, de mon expérience dans le basket. C'est que faut payer les arbitres qui viennent arbitrer les matchs, surtout en amateur. Là, on se retrouve au basket, les plus basses divisions n'ont plus d'arbitres. On est sur de l'auto-arbitrage. Enfin, de l'auto-arbitrage. On doit désigner quelqu'un du club pour arbitrer le match. Il n'y a plus d'arbitre officiel de désigner. C'est des situations assez compliquées. Comment veux-tu évoluer dans le sport quand t'as pas les moyens de payer des arbitres et des officiels pour faire un peu ce que personne n'a envie de faire?
C'est vraiment dommage et je pense que ce sera un gros point à retravailler et à se renseigner pour revenir auprès de nos auditeurs, auditrices. Juste après cette pause musicale, on s'écoutera l'actualité du basket présentée par Louis.
Que ce soit clair, oui, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne.
On est toujours sur Eiffel Radio et maintenant on va parler de l'actualité du basket avec Louis. Parle-nous un peu des tournois, des résultats sportifs du basket.
Bah, je vais surtout me concentrer sur la France avec la Betclic Elite qui a repris ce week-end justement. Donc parfait pour la reprise de l'émission. Et on a eu un match d'ouverture qui nous a promis du suspense pour une fois avec Dijon face à Le Mans. Et Le Mans qui a été mené toute la première mi-temps derrière au score, sont passés devant juste en deuxième mi-temps grâce à un duo Eugene Benamenskel qui mettent 42 points à eux deux. Et à 27 secondes de la fin du match, on se dit bon, 81-90, le match est fini. Et ben non, dans un dernier run, Le Mans essaye de. Non, Dijon essaye d'accrocher Le Mans et vient perdre 89-91. Donc deux petits points à 3 secondes de la fin du match. C'était encore jouable, mais ils n'ont pas réussi. Boulazac, qui vient de faire son retour en Betclic Elite, le plus haut niveau français, et ben, ils sont venus chercher leur première victoire face à Saint-Quentin. Saint-Quentin qui ont perdu pas mal de joueurs. Ils viennent perdre du coup face à Boulazac, 94-76, quand même assez grosse défaite. Première victoire pour Boulazac dans ce championnat au plus haut niveau, qui vont essayer de faire quand même une belle compétition, je pense. Strasbourg qui accroche Cholet, mais 18-6 dans les 8 dernières minutes, ça fait un score aussi assez lourd à la fin, 92-74 pour Cholet. Le CSP Limoges qui souhaite retrouver vraiment une place dans la Betclic Elite, qui souhaite jouer le top 5, eh bien, ils viennent chercher leur première victoire de la saison, 96-84 face à Bourg-en-Bresse, qui vise toujours, eux, une place du top 5, qui commencent assez mal la saison, qui ont eu pas mal de pertes en termes de joueurs, mais qui devraient bien se remettre au fur et à mesure de la saison. On a Paris Basket qui viennent se rassurer après un été très mouvementé. Ils perdent le MVP de la saison passée du championnat français qui est TJ Short, mais ils perdent aussi Tyson Ward, Kevarius Ace, Maudolo, Colin Malcolm, Michael Yontunen, donc que des cadres de l'équipe. Donc l'équipe qui est championne de France en titre, ils reviennent avec un tout nouveau visage et gagnent face à Gravelines, donc, qui représente assez mal les Hauts-de-France pour cette première journée. Donc 66-109 pour Paris. Ensuite, on a Monaco, qui est un des grands concurrents de Paris Basket, qui, lui, va se rassurer un peu avec l'absence de Mike James, Johan Makoundou, Daniel Theis, Donatas Montiéounas ou encore Kevarius Ace, qui a rejoint le Rocher cet été. Ils vont se rassurer 63-84 face à Le Portel, une autre équipe des Hauts-de-France qui devrait se rassurer au cours de la saison, qui sont passés pas loin de la relégation et qui sont restés de justesse en Betclic Elite. Et du coup, pour le dernier, enfin pour l'avant-dernier match, du coup, Lyon-Villeurbanne, qui est un autre concurrent de Monaco et Paris Basket, qui vont jouer le top 3 comme les dernières années, qui s'est bien renforcé cet été, qui est allé chercher pas mal de joueurs, a mis un gros score quand même à Nancy, 115-71. Et du coup, fin de première journée de Betclic Elite, et on voit déjà le top 3 habituel, Lyon-Villeurbanne, Paris Basket, Monaco, qui ont déjà pris leur place. On verra si ça va durer, c'est que la première journée. Mais on a une petite surprise à la quatrième place avec Boulazac, qui est le promu qui se met directement quatrième, ce qui est plutôt intéressant pour ce club. On aura un dernier match quand même, Chalon face à Nanterre, qui se joue ce soir au moment de l'enregistrement. Et donc, je vais parler un peu des clubs français en Euroleague, vu que l'Euroleague commence cette semaine aussi, donc là, mercredi soir, avec Paris Basket qui va jouer face à leur bourreau de la saison passée, le Fenerbahçe. Paris Basket qui, pour leur première participation en Euroleague, avait directement été en play-off pour sortir au premier tour face à Fenerbahçe. Là, on aura aussi Monaco, mercredi soir, qui va jouer face à Žalgiris. Logiquement, c'est une victoire, c'est une équipe de milieu bas de classement d'Euroleague, Monaco qui est censé jouer le titre cette année. Et l'ASVEL va défier Valence, le petit nouveau de la compétition. Donc Valence qui vient d'arriver en Euroleague, en espérant qu'il ne fasse pas un coup à la Boulazac en Betclic Elite à l'ASVEL et que l'ASVEL aille chercher une petite victoire pour les Français.
Eh bien, merci Louis. Et beaucoup de nouveautés et beaucoup de matchs à suivre dans ce basket. Et en parlant de matchs à suivre, on a ce week-end le match de Lille-PSG au foot à suivre. On espère que nos Lillois vont s'accrocher et pourquoi pas sortir victorieux de ce match. Et aussi, autre championnat dans le monde, on a le championnat d'haltérophilie du 3 au 12 octobre en Norvège, le championnat du monde de canoë slalom en Australie du 1er au 6 octobre, et enfin la Coupe des Nations du saut d'obstacle du 2 au 5 octobre en Espagne. Sport 360, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés et retrouvez-nous sur l'application ou en podcast sur FL Radio.